Chapitre de l'histoire tchèque. David, allons.
En cette veille de présidence tchèque de l'UE, il est nécessaire de rendre hommage à Georges de Poděbrady, roi de Bohême au XVe siècle, mais aussi auteur d'un projet détaillé d'union des puissances chrétiennes d'Europe. À cette occasion est sorti récemment un livre retraçant l'histoire de ce projet, de la Bohême jusqu'à Compostelle, aux sources de l'idée d'union européenne, aux éditions Atlantica. Nous recevons aujourd'hui Martin Neyedli, professeur d'histoire médiévale à l'université Charles de Prague et auteur de la préface du livre. À la base du projet de Georges de Poděbrady de constituer une confédération chrétienne, on a souvent accordé une importance trop grande à la menace turque. En 1453, les Turcs ont conquis Constantinople et ils menacent désormais directement l'Europe. Le projet d'union des États européens serait donc motivé par un désir de croisade contre l'ennemi ottoman. En fait, Georges de Poděbrady insiste dans son texte plus sur la paix que sur la guerre, comme l'explique Martin Neyedli.
Je pense que si on lit attentivement tout le texte, on s'aperçoit que la lutte contre les Turcs n'est ni le seul but, ni le but principal de son projet. Et ce qu'il visait vraiment, c'était la coexistence pacifique des nations chrétiennes, des pays chrétiens, mais je pense qu'il essayait même au-delà d'établir une base qui pourrait régler les conflits, même avec les pays non chrétiens, même avec les Turcs, par exemple.
En fait, en matière de paix, le projet du roi de Bohême apparaît particulièrement précurseur, puisqu'il prévoit un arbitrage et des sanctions internationales avec possibilité d'intervention armée. L'ONU concrétisera cette pensée visionnaire 6 siècles après, mais nous reviendrons plus tard sur les aspects modernistes du projet de Poděbrady, car le texte n'est pas dénué d'une certaine ambiguïté qui est étroitement liée au contexte de la Bohême à l'époque. Georges de Poděbrady rédige son texte en 1463. Un an auparavant, le pape Pie II avait déclaré la rupture avec le royaume de Bohême en dénonçant les compactats. Ce que Poděbrady craint donc avant tout, c'est une nouvelle croisade sous l'égide du pape, des puissances chrétiennes d'Europe contre le royaume dit hérétique. Ce ne serait pas la première fois depuis les guerres hussites. Mais ce que souhaite préserver le roi, c'est aussi cette coexistence religieuse entre catholiques et hussites, qui fait de la Bohême une pionnière en matière de tolérance religieuse. Écrit environ un an après la rupture pontificale, le projet de Georges de Poděbrady ne ménage pas le vicaire de Rome. Le texte suit une logique géostratégique que l'on peut résumer ainsi: alliance avec le royaume le plus puissant d'Europe, celui de France, et affaiblissement de la papauté. Et de manière explicite, Poděbrady a réorganisé la structure traditionnelle des nations de l'Occident médiéval en renommant la romaine l'italienne et en la faisant passer de la première à la troisième position. Le pouvoir pontifical est directement visé. La nation gallicane, en revanche, prend la première position.
Georges de Poděbrady était bien évidemment un politicien pragmatique, donc s'il a insisté tellement sur le rôle de Gallica, de nation Gallica, donc sur le rôle du royaume de France, c'était d'abord parce qu'il a voulu que ce projet soit adopté d'abord par le roi de France Louis XI. Je sentirais là aussi l'influence de son conseiller Antonio Marini de Grenoble, qui était français. Ce qui pourrait paraître bizarre, c'est que le royaume de Bohême ou la nation tchèque ne sont pas explicitement mentionnés. Le royaume de Bohême était censé être inclus dans Germania. Ce n'était pas l'Allemagne au sens actuel du terme. Si on voulait utiliser un terme un peu anachronique, c'était l'Europe centrale. Et Georges de Podiebrady espérait que le royaume de Bohême jouerait un rôle important dans cette Germania.
Une carte de l'Europe datant du XVIe siècle, que l'on doit à un certain Johannes Putsch d'Innsbruck, résume bien l'Europe que conçoit Podiebrady. L'Europe est représentée sous l'aspect d'une femme, dont la France est la tête, et la Bohême le médaillon qui orne son vêtement. On peut y lire la légende suivante. La Bohême est comme une broche pendue à la chaîne de la région rhénane, semblable à une tresse d'or à travers le Rhin et la forêt noire. Il serait pourtant faux d'analyser le projet du roi de Bohême sous l'angle du court terme uniquement, car le texte est visionnaire en ce qu'il propose une idée politique de l'Europe. Ce faisant, il proclame la fin des universalismes, celui du pape comme celui de l'empereur germanique, réduit à un roi parmi les autres.
Bien évidemment, je pense qu'on peut considérer Georges de Podiebrady comme un roi qui fait une sorte de transition entre le Moyen Âge et la Renaissance, mais je dirais que ce qui le différencie des autres souverains de l'époque, c'est qu'il ne s'est pas contenté de faire élaborer un projet d'union et de coexistence, mais qu'il a mis en place une politique volontaire et une diplomatie ambitieuse. Et là, je trouverais quelque chose de moderne, dans le sens où seulement les hommes politiques, après du 18e, 19e siècle, ont tâché de nouveau de pas seulement d'élaborer les plans, mais de les mettre en pratique.
Malgré de nombreuses ambassades et contacts entre les cours de France et de Bohême, le projet, si précisément élaboré, ne verra pas le jour. Louis XI, jouant un temps le jeu pour taquiner le pape, mais n'étant pas pour autant prêt à voir renier sa souveraineté. Car le projet va très loin et ne se limite pas à une organisation institutionnelle avec parlement et cour de justice. Il prévoit une véritable intégration, encore plus ambitieuse par certains aspects que notre Union européenne actuelle.
Ce projet était trop visionnaire que non seulement Louis XI, mais aussi ses conseillers avaient peur que ça puisse entraîner le royaume de France trop loin. Et puis, bien évidemment, l'idée qu'on trouve dans le projet, par exemple, battre la monnaie commune, faire en sorte que les États délèguent beaucoup de pouvoirs régaliens, par exemple la possibilité de déclarer la guerre. Il y avait même l'idée de contributions financières pour le fonctionnement de cette union. Il y avait l'idée de réguler les prix des denrées alimentaires. Même aujourd'hui, ça poserait beaucoup de problèmes, donc d'autant plus au XVe siècle. Georges de Podiebrady comptait sur le fait que d'autres pays seront incorporés dans cette union. Je pense quand même plutôt que peut-être comme un premier pas ou comme une première phase, il pensait plutôt à l'Europe qui s'arrêterait vers les frontières de la Pologne et de la Hongrie, qui quand même à l'époque allait beaucoup plus à l'est qu'actuellement.
Selon Martin Leiedli, le legs que doit aujourd'hui l'Europe aux idées du roi tchèque n'est pas assez reconnu. Si les textes européens le mentionnent, ce n'est qu'en tant qu'un parmi d'autres. Et d'espérer, non sans une certaine appréhension, que la présidence tchèque de l'UE y changera quelque chose. De même, les nombreux contacts entre Podiebrad et Louis XI démontrent que le socle de l'amitié franco-tchèque est solide et ancien.